Patrick Houck est directeur d'Action Culture à l'Université de Lille 3. Action Culture organise et coordonne le 24e Festival interuniversitaire du spectacle vivant et invite en résidence à l'université le légendaire Futz Barn Theater et son chapiteau du 19 mars au 13 avril. Deux spectacles sont à l'affiche, L'homme qui rit de Victor Hugo et Le songe d'une nuit d'été de William Shakespeare. Alors Patrick Houck, le théâtre universitaire est très vivant en France et particulièrement dans le Nord.
Oui, il est vivant dans le Nord, il est vivant un peu partout. Le théâtre universitaire, il a une histoire. C'est le théâtre de Nancy. Et quelque part, on essaie aussi, à travers les services culturels, de retrouver ce qui était l'esprit de ce théâtre universitaire. En fait, si vous dites bon, le 24e festival du spectacle vivant à Lille 3, bon, si le 24e, c'est le lendemain du 23 et c'est le précédent du 25, ça n'offre pas beaucoup d'intérêt.
Sauf que ça montre que ça fait un bout de temps que ça existe.
Oui, mais on peut très bien faire durer une chose sans jamais essayer de la renouveler. Et là, bon, on a le mérite d'avoir quelque chose qui ne dérange personne puisque on lui permet de vivre si longtemps. Ce qu'on essaie toujours dans les services culturels, et ça c'est valable pour la France, puisque je suis aussi président de tous les services culturels de France, à travers Art Université Culture, ce qu'on essaie c'est de montrer qu'à l'université, si on fait du théâtre, c'est parce qu'on ne peut pas le faire ailleurs de la même manière. Quelque part, si l'université perd la notion d'être un territoire où on peut créer l'impossible, eh bien, je dirais qu'il y a d'autres structures qui font du théâtre et ce n'est pas la peine que nous, on s'y colle. Donc, le théâtre universitaire, ça doit permettre... D'abord, il y a une chose, c'est l'exigence. On souhaite, on veut, on maintient, on est accroché au fait que les troupes qui jouent chez nous doivent passer sous le joug de l'exigence, soit l'exigence à travers un jury de professionnels, soit à travers des ateliers de professionnels qui encadrent, qui structurent, qui aident, qui montrent, qui peuvent soutenir et qui peuvent accompagner le travail qui est fait par ces compagnies. Et derrière ça, eh bien, l'université peut être un lieu d'émergence. On n'a pas le rôle de conservatoire. On a eu tout à l'heure deux artistes qui venaient des conservatoires. On aurait pu avoir deux acteurs qui seraient venus d'une école de théâtre. Ce n'est pas le but du jeu d'université d'être une école, d'être un conservatoire ou d'être une école de théâtre. Mais si quelque part on peut permettre à des troupes, dans le cadre de ce que j'ai dit, de pouvoir se mettre en lisibilité, alors on a atteint notre objectif.
Ça veut dire que c'est un lieu d'émergence avant tout.
Un lieu d'émergence, oui. Et surtout, et aussi un lieu où on peut essayer de faire ce qui est impossible ailleurs. Les scènes nationales ont un cahier des charges qui ne leur permettent pas toujours d'aller aussi loin qu'elles le voudraient. À l'université, il n'y a pas d'enjeu immédiat dans l'acte culturel que l'on pose.
Mais il n'y a pas d'enjeu de production.
Voilà.
On revient au travail d'ailleurs.
Voilà. Mais le travail, dont parlait Patrick Calais, lui, il doit être présent constamment.
Oui, c'est sûr. Mais on parlait justement d'émergence. Est-ce que vous êtes une couveuse de troupes professionnelles ou après
L'année dernière, on a essayé de faire une rétrospective de tous les étudiants qui étaient passés chez nous dans le cadre des festivals et qui avaient été lauréats de l'une ou l'autre année. Et on a regardé un petit peu autour de nous ce que ça avait donné. On s'aperçoit que dans le jury actuel des professionnels, et bien, il y en a déjà 3 ou 4. On s'aperçoit que dans les ateliers, enfin les professionnels qu'on appelle pour faire encadrer nos ateliers, eh bien la plupart du temps on retombe sur des anciens. Alors évidemment, ça peut être le réseau des grandes écoles, mais ce n'est pas tout à fait le même cas en ce qui concerne les universités, hein, vous le savez. Donc on a en effet beaucoup d'étudiants qui ont percé, qui ont continué, qui ont pris leur chemin, leur bâton de pèlerin, et qu'on retrouve chez Suarside, à l'école de Suarside, qu'on retrouve en compagnie, ou bien qui reviennent en tant que professionnels, et qu'on accueille volontiers dans l'université.
Ça veut dire que ça fonctionne bien. Alors comment les compagnies sont-elles sélectionnées? Il y a un jury, vous l'avez dit.
Il y a un premier jury en mois de janvier sur dossier. Ensuite, ils passent devant un jury de professionnels pour présenter 10 minutes de la pièce qu'ils se proposent de fournir au mois de mars pour le festival. Et là, sur les 20-28 qui candidatent au départ, on en retient en fait 9.
Alors, le festival s'est ouvert cette année à la danse, aux arts plastiques et à la musique, ce me semble.
Alors, nouvelle forme. Bon, depuis, comme je vous disais, on essaie d'être ce lieu d'expérimentation et on s'est dit que, tout compte fait, le théâtre, eh bien, qu'est-ce que c'est que le théâtre ? Ben, c'est un spectacle et il ne faut pas grand-chose pour faire ce spectacle puisqu'il suffit que quelqu'un regarde et que quelqu'un soit regardé. Et on a un spectacle de théâtre. Donc, à partir de ça, on s'est dit qu'on pouvait, avec si peu de contraintes, arriver à avoir... autoriser les formes les plus variées, soit dans l'occupation de l'espace, soit dans le recours aux moyens électroniques, le mode de jeu ou même le statut du spectateur. Et donc on encourage les étudiants à aller chercher ces nouvelles formes et à nous proposer des nouvelles formes. Et paradoxalement, on s'est aperçu depuis 3 ans qu'il fallait les pousser à faire ça.
Ah bon.
Parce qu'il y a un petit peu on se rassure un peu avec les auteurs. Et en plus, le fait qu'il y a un lauréat, on met un lauréat du festival, mais en fait, c'est les lauréats, c'est les 9 qui participent. Hein. Et c'est peut-être que ça, à un moment, ça les a freinés dans leur envie de nous proposer des choses impossibles. Donc là, on insiste lourdement, je dirais, pour que ces nouvelles formes soient au goût du jour chez nous et que la meilleure place leur soit faite.
Très bien. Alors, vous invitez tous les ans une troupe professionnelle ou c'est exceptionnel avec le Futsbarn cette année ?
Tous les ans, on fait l'ouverture du festival et la fermeture du festival chez des professionnels. Donc, le Prato, le Théâtre du Nord...
Oui, c'est vous qui y allez.
D'habitude, on y va.
Voilà.
Donc, chez Sarrazin, la Rose des Vents, tous les partenaires nous ont accueillis ou nous ont subis une ou deux fois depuis notre existence. Et cette année, par hasard, je suis retombé sur M6 à un passage du Futsbarn qui était accueilli par Irène Nouchkine. Bon, le Futsbarn, c'est une légende du théâtre. Pour notre génération, c'est une compagnie qui a illustré plus ou moins l'histoire du théâtre. Et donc, je me suis dit que ce serait intéressant de les faire venir. Donc, le lendemain, je leur ai téléphoné et ils ont été d'accord pour venir. Alors, pour venir, le Futsbarn, c'est un chapiteau, 400 places, c'est 2 semi-remorques, c'est 14 caravanes, c'est quand même une entreprise qui dépasse largement ce qui fait le quotidien d'un service culturel universitaire.
Bon, certes.
Je m'en doutais, j'en suis convaincu. Maintenant, ça a quand même été possible parce que le Futsbarn s'est rendu compte aussi qu'ils ne pouvaient pas nous demander les mêmes choses au niveau du cachet, par exemple, qu'ils l'auraient pourraient demander pour une tournée normale ou traditionnelle. Donc, on a décidé, le Futsbarn et nous, et la ville de Villeneuve-d'Ascq, parce que sans la ville de Villeneuve-d'Ascq, on n'aurait rien pu faire. Et donc, ces trois partenaires, on a décidé de le faire quand même. Hein. Quelque part, on pourra peut-être dire qu'ils ont réussi parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible, mais on en est là. Bon, donc, ils arrivent demain après-midi. Et donc, ils vont être sur le parking de l'île 3 et ils vont jouer L'Homme qui rit et Le songe d'une nuit d'été.
Alors, ce serait peut-être le moment de préciser, de présenter un tout petit peu, justement, pour les plus jeunes, ce qu'est le Futsbarn. Quelle est leur spécificité ? Parce qu'on a dit qu'ils avaient un chapiteau, c'est parce qu'il s'appelle le Futsbarn Travelling Theater.
Oui.
Parce qu'il bouge, en fait.
Voilà. Alors, c'est Monsieur Foot qui, au départ, un Anglais, en 1970-71, avait cette troupe de théâtre, et pour faire jouer une troupe, ben c'est plus pratique de la mettre dans quelque chose. Donc, comme il avait une grange, une barn en anglais, il les a mis dans sa grange. Et c'est donc venu le Futsbarn théâtre, qui ensuite a raccourci son nom et est devenu le Futsbarn tout court. Hein. Donc, ce Futsbarn, dès le départ, plus ou moins, a pris l'option de parcourir le territoire et l'Europe et le monde entier, en s'appuyant surtout sur la programmation de Shakespeare. Et donc, ce sont des itinérants qui, depuis plus de 30 ans, eh bien, parcourent ce monde à travers, en montrant surtout Shakespeare, mais là, ils ont aussi une création sur Victor Hugo, et c'est ça un des deux spectacles qu'on va voir.
Alors, est-ce qu'il y a du texte est-ce que leur façon de jouer est un peu différente du reste ?
Alors, il est un peu différent dans la mesure où c'est beaucoup de couleurs, beaucoup de c'est Mnouchkine, c'est de beaucoup de couleurs, beaucoup de lumière, beaucoup de décors, beaucoup de masques.
C'est la fête quand même.
C'est la fête, c'est la fête continuelle. Avec Shakespeare, c'est la comédie de Le Songe d'une été, c'est tout à fait dans l'ordre des choses. Avec L'Homme qui rit, on pourrait peut-être plus en douter, mais ils réussissent aussi à faire une fête de cet homme qui rit. Le texte, les comédiens sont d'à peu près toutes les nationalités aussi. Il y a des Japonais, etc. Donc l'accent est relativement marqué sur certains personnages.
Shakespeare avec l'accent japonais, c'est sympa.
Oui, mais c'est toujours plus facile pour les Français de comprendre l'anglais quand il est prononcé par un étranger. Donc quelque part, ça nous rassure. Sur le Victor Hugo, je trouve que c'est très intéressant parce que... je crois que actuellement, le Victor Hugo et L'Homme qui rit est tout à fait d'actualité. L'Homme qui rit, bon, vous connaissez l'histoire, plus ou moins, c'est un enfant qui a été abandonné sur ordre du roi et qui est remis à une troupe de forains qui fabrique des phénomènes de foire. Donc, il fabrique un phénomène de foire en le défigurant, comme certains plasticiens actuellement arrivent à le faire aussi d'ailleurs. Et donc, notre homme qui rit devient ce phénomène de foire qui rit continuellement. Il est abandonné par la troupe et il est recueilli par un homme et un loup, Ursus et Homo. Et on découvre ensuite qu'il est en fait un lord. Il reprend son statut de lord dans l'échelle sociale. Il avait rencontré, quand il a été abandonné, une jeune fille, Odéa, qui est aveugle et qui est amoureuse de lui. Aveugle, donc ne voyant pas la monstruosité du personnage et ne voyant que la beauté de l'intérieur du personnage. Donc il y a tout un jeu entre le physique et puis l'intérieur du personnage. C'est un roman initiatique dans la mesure où le héros Gwynplaine voyage, subit des épreuves, est tenté par la femme qui est érotique et qui cherche à travers l'union avec des monstres à satisfaire une libido exacerbée.
Mais quelle histoire !
Mais Gwynplaine revient vers son amour de Dea, la jeune fille aveugle, ce qui trouble tellement Dea qu'elle meurt et Gwynplaine se suicide. Donc vous voyez,
ça c'est du Victor Hugo.
Quelque chose qui ressemble tout à fait du Victor Hugo, mais en même temps, eh bien, on est dans le monstre qui est l'exception, qui est étrange par rapport à la société et qui donc est rejeté en tant que tel. Gwynplaine, à un moment, lorsqu'il est lord, fait un discours à la Chambre des Lords et son discours, il est le porteur de la voix du peuple. Et en même temps, il fait éclater rire tout le monde parce que justement, avec son masque de rire éternel, personne ne le prend au sérieux. Et lorsqu'il parle à ses lords, il dit « Milord, vous êtes en haut, je suis celui des profondeurs. Si vous saviez ce que j'ai vu, si vous saviez ce qui se passe, aucun de vous n'oserait être heureux. » Donc bon, alors, il prêche la révolution déjà du peuple.
Bon, très bien. Et évidemment, il va rechercher du travail lui aussi, après la révolution.
Voilà.
Donc, du coup, on va tous aller voir quand même. L'homme qui rit, c'est le samedi 28 mars à 19h30, c'est ça, sur le parking.
C'est à partir du 19 avril.
Oui.
Non, pas le 19 mars.
Du 19 mars. Mais L'Homme qui rit, c'est le 19 mars.
Donc 19, 21, 26 au 28, dimanche 22, 29 mars.
Bon, très bien.
Et ensuite Le Songe, du 2 au 13 avril. Donc il y a 14 représentations en tout.
Très bien. Et évidemment, le Footband travaille avec des étudiants, avec des ateliers, etc. Donc cette invitation remplit complètement... Le rôle de l'université par rapport...
L'ouverture vers la cité,
voilà, etc. Eh bien, Patrick Houck, merci. Action Culture, quand même, si on veut se renseigner, c'est le 03 20 41 60 25.